Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'une des dimensions les plus profondes et les plus méconnues de notre existence, notre relation amoureuse avec la Terre elle-même. Non pas une Terre abstraite des discours écologiques, mais la Terre sensible, charnelle, vivante, avec laquelle nous entretenons depuis toujours une intimité que nous avons certainement oubliée. Ce poème ose dire ce que peu osent formuler. Notre lien au monde terrestre est d'abord et avant tout un lien d'amour passionnel, fusionnel, érotique même, où se mêlent le désir de connaître et celui de se perdre. L'aspiration à posséder et le besoin de se donner totalement. Je vais vous proposer dans un premier temps, et bien que nous écoutions déjà mon poème intitulé « Terre ». Je t'ai tout donné sans compter. Je t'ai reconnu dans l'ombre comme dans la lumière. Je t'ai parcouru d'un bout à l'autre. Je connais chaque vallon qui te compose. Je t'ai tout donné et donc je t'ai aimé. Aimé à ne plus savoir qui j'étais. Je me suis perdu en toi. J'ai voulu te trouver, je t'ai tellement cherché alors que tu étais là, devant moi, sous mes mains. Et mon esprit qui se délectait de ton corps innombrable. Mais c'est ton esprit que je voulais. Je le désirais tellement que j'ai inscrit mon empreinte au plus profond. Jamais tu ne pourras m'oublier. Depuis toujours, tu tournes dans cet univers de tout et de rien. Tes étoiles sont mes champs de fleurs, ton soleil, l'être aimé autour duquel tu danses, m'ignorant depuis l'origine. Pourtant, moi, je suis là. Cette lune qui te convoite passe et se pavane, séduisante, et moi, je demeure. J'ai tout réduit dans ma petite vie. Je me suis dépouillé pour que tu puisses mieux m'accueillir. Accepte-moi au plus profond de ton corps, que je perce ton âme au jour, que je me délecte de ton limon chaleureux et humide, que pour toujours, nous ne fassions plus qu'un. Il existe une manière d'être au monde que nos sociétés modernes ont presque entièrement oublié. Nos ancêtres la connaissaient intimement. Les peuples premiers la vivent encore aujourd'hui. Mais nous, enfermés dans nos villes de béton et d'acier, connectés à nos écrans et déconnectés de la terre sous nos pieds, eh bien, nous avons perdu cette conscience fondamentale. La terre n'est pas un décor inerte, un simple support de nos activités humaines. Elle est vivante, elle est sensible, elle respire et palpite. Et notre relation avec elle peut être aussi intime, aussi passionnelle, aussi profonde qu'une relation amoureuse entre deux êtres. Mon poème ici ose franchir une frontière que notre culture rationaliste a érigée entre l'humain et le monde naturel. Il emploie sans hésitation le vocabulaire de l'amour charnel pour décrire cette relation à la Terre. Ce choix n'est pas métaphorique au sens faible du terme, comme si l'on utilisait simplement des images poétiques pour embellir un propos abstrait. Non, il y a ici l'affirmation d'une vérité profonde. Notre lien au terrestre engage notre corps autant que notre esprit, nos sens autant que notre intelligence et notre désir autant que notre contemplation. Séparer radicalement l'érotisme de la spiritualité constitue d'ailleurs l'une des erreurs, je pense, majeures de certaines traditions religieuses occidentales qui ont voulu purifier l'âme en la détachant du corps, élever l'esprit en méprisant la chair. Les mystiques, d'à peu près toutes les traditions, ont pourtant su reconnaître cette vérité. La communion avec le divin, l'union avec l'absolu, passe souvent par une expérience qui engage la totalité de notre être incarné. Sainte Thérèse d'Avila décrivait dans ses visions mystiques, dans un langage qui n'a rien à envier aux descriptions des amants les plus passionnés. Le Cantique des Cantiques, texte sacré du judaïsme et du christianisme, eh bien, chante l'amour divin avec les mots du désir charnel. Rumi, l'immense poète soufi, évoque l'union avec Dieu comme une ivresse amoureuse où l'amant se perd totalement dans l'aimer. Cette tradition d'une spiritualité incarnée, sensuelle, qui n'oppose pas le haut et le bas, le sacré et le profane, l'esprit et la matière, eh bien traverse l'histoire humaine comme une sorte de fil rouge, souvent occulté, mais jamais totalement rompu. D'où d'ailleurs mon choix de l'illustration que vous avez sur ce poème et pour le podcast d'aujourd'hui. Eh bien, mon poème ici s'inscrit dans cette lignée, mais avec une particularité. L'objet du désir n'est pas un dieu transcendant, lointain, séparé du monde matériel, c'est au contraire la terre elle-même, l'immanence pure, la matière vivante qui nous porte et nous nourrit chaque jour. Cette orientation nous rapproche, je pense, du panthéisme, cette vision philosophique et spirituelle qui voit le divin non pas au-dessus ou au-delà du monde, mais dans le monde, comme l'âme même de la nature. Spinoza affirmait que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même substance considérée sous deux aspects différents. Tout ce qui existe participe de cette substance divine unique. Il n'y a pas d'un côté un monde matériel profane et de l'autre un royaume spirituel sacré. Tout est sacré, tout est divin, parce que tout participe de l'être unique. Cette vision transforme radicalement notre rapport au monde. Si la terre est divine, si elle participe de la même substance que ce que les religions appellent Dieu, alors notre relation avec elle devient naturellement une relation sacrée, une forme de communion mystique. Marcher pieds nus sur la terre, et pour ceux qui me suivent sur Instagram sauront que je suis une personne qui marche dès qu'il le peut pieds nus sur la terre, eh bien, marcher pieds nus sur la terre devient une forme de prière. Toucher l'écorce d'un arbre devient une forme de contact avec le sacré et plonger ses mains dans l'humus devient un geste presque liturgique. Le monde cesse d'être cet objet extérieur que nous exploitons, que nous dominons, que nous utilisons pour redevenir ce « tu » vivant avec lequel nous entretenons une sorte de dialogue constant, une relation d'amour réciproque. L'amour décrit dans ce poème possède d'abord la caractéristique du don total, sans réserve, sans calcul. Nous sommes actuellement dans une société marchande où presque toute relation tend à devenir échange équivalent, transaction mesurée, investissement dont on attend un retour. Ce don absolu dont je vous parle détonne. Il évoque plutôt l'agapé des Grecs, cet amour qui donne sans compter, sans attendre de réciprocité, sans condition. Mais ici, cet amour-don se teinte d'éros, de désir, de passion. Ce n'est pas la charité détachée du philanthrope, ni l'amour universel et abstrait du sage. Mais c'est un amour incarné, c'est un amour brûlant, qui engage tout l'être dans une quête de fusion. Cette quête, eh bien, passe d'abord, avant toute chose, par la connaissance. Connaître au sens biblique, au sens charnel du terme, parcourir d'un bout à l'autre, explorer chaque vallée et chaque colline, apprendre par le toucher et le regard la géographie intime de l'aimé, cette connaissance, eh bien, n'est pas celle du cartographe qui mesure et répertorie de l'extérieur. Non. C'est la connaissance de l'amant qui découvre le corps aimé dans l'obscurité et dans la clarté, qui apprend ses courbes et ses secrets, et qui devine ses réactions et ses désirs. Les traditions hermétiques enseignent que la véritable connaissance ne peut être purement intellectuelle. Elle doit engager forcément l'être entier dans une relation transformatrice avec ce qui est connu. Connaître véritablement quelque chose, eh bien, c'est établir avec cette chose une forme de communion qui nous change autant qu'elle la révèle. Cette connaissance intime de la Terre, eh bien, nos ancêtres la possédaient naturellement. Le paysan traditionnel connaissait chaque parcelle de son champ, la qualité particulière de tel sol, l'orientation de telle pente, le microclimat de tel vallon. Eh bien, cette connaissance, vous le comprenez bien, elle n'était pas théorique, mais elle était totalement pratique. Elle était même, je dirais, sensible, incorporée dans tous ces gestes du quotidien. Le chasseur-cueilleur connaissait forcément la forêt comme on connaît sa propre maison, chaque arbre, chaque source, chaque chemin animal. Et cette familiarité profonde avec la terre crée un lien d'intimité, eh bien, que nous avons, je pense, et j'en suis même intimement convaincu, presque totalement perdu. Et quelle tristesse. Mais la connaissance du corps que j'évoque ne suffit pas. Et mon poème insiste avec force sur cette limite. L'esprit est ce qui est vraiment désiré. Au-delà de la superficie visible et au-delà de la géographie physique, c'est l'intériorité invisible qui attire, qui fascine et qui appelle. L'esprit de la Terre, son âme, si l'on veut, eh bien, cette dimension immatérielle qui anime la matière, qui fait d'elle non pas un simple agrégat de minéraux et de molécules, mais un être plutôt vivant, un être conscient, peut-être, capable de relations, capable de réponses et même de transformations. Les traditions animistes l'ont toujours su. La Terre possède une âme. Les montagnes ont des esprits. Les rivières sont habitées par des sortes de puissances invisibles. Eh bien, ce que notre modernité a rejeté comme superstition primitive pourrait bien être une intuition profonde sur la nature réelle du monde même. Cette quête de l'esprit invisible passe par l'inscription de notre empreinte dans la matière, paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que nous sommes sur une contradiction apparente qui révèle en fait une vérité dialectique. C'est en s'enfonçant toujours plus profondément dans le matériel que l'on va aller toucher au spirituel. Et c'est en creusant la terre qu'on en atteint l'âme. Les alchimistes médiévaux le savaient bien. Eux qui travaillaient la matière vile pour en extraire l'or philosophal, la pierre qui transmute et guérit. Leur œuvre était d'abord manipulation concrète de substances chimiques, mais cette manipulation visait une transformation spirituelle du pratiquant lui-même. Solvé et coagula, dissoudre et coaguler, spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. L'empreinte dont parle mon poème est cette marque indélébile que laisse l'amour véritable. Quand on aime vraiment, on transforme l'être aimé autant qu'on est transformé par lui, finalement. Et cette transformation mutuelle crée une forme de mémoire, une trace qui va persister bien au-delà même de la séparation. Et dans le contexte de notre relation présente à la Terre, eh bien cette empreinte prend des dimensions à la fois humbles et à la fois grandioses. Humbles parce que chaque pas que nous faisons laisse une trace éphémère dans la poussière, chaque geste transforme de manière infinitésimale le monde. Et puis grandiose, parce que l'humanité dans son ensemble a profondément marqué la planète, pour le meilleur comme pour le pire, au point que certains scientifiques parlent désormais d'une nouvelle ère géologique, l'anthropocène, l'ère de l'humain. Mais il existe aussi des empreintes que je nommerais plus subtiles, qui sont très certainement moins visibles, mais peut-être aussi plus durables. L'empreinte spirituelle, énergétique, diraient certaines traditions, que laissent ceux qui ont vécu intensément leur relation à la Terre. Les lieux sacrés de toutes les cultures portent cette marque invisible. Des générations de prières, de rituels, de méditations, eh bien, ils ont créé une atmosphère particulière que les êtres sensibles peuvent encore aujourd'hui percevoir. Et j'échange souvent avec certains d'entre vous qui ont ce don. De même, certains paysages portent la trace invisible de ceux qui les ont aimés, contemplés, célébrés. Et cette empreinte immatérielle, eh bien, participe peut-être de ce que Jung appelait le célèbre inconscient collectif, cette strate profonde de la psyché où se déposent les expériences de l'humanité entière. Mon poème développe ensuite une méditation cosmique d'une grande beauté. La Terre devient cette danseuse cosmique qui tourne dans l'univers, gravitant autour de son soleil bien-aimé et accompagné de sa lune séductrice. Il y a ici une vision astronomique qui pourrait sembler froide et finalement objective, et elle est pourtant ici chargée d'émotions et aussi également de signification. Le cosmos devient le théâtre de ses relations, un espace de désir et de jalousie, de scènes où se joue un drame amoureux éternel. Cette anthropomorphisation du cosmos, eh bien, pouvait sembler peut-être un peu naïve de prime abord à notre époque scientifique, mais elle touche peut-être à une vérité plus profonde que le réductionnisme matérialiste. Les anciennes cosmologies, allant de Platon à Dante, concevaient l'univers comme un organisme vivant, animé, hiérarchisé selon des principes spirituels. Les sphères célestes chantaient dans leur rotation, produisant cette musique des sphères que seuls les initiés pouvaient entendre. Les planètes étaient des divinités ou les demeures de puissance spirituelle. Cette vision enchantée du cosmos n'était pas une simple poésie ou une ignorance préscientifique. Elle exprimait plutôt une intuition sur la nature essentiellement relationnelle de l'univers, sur l'interdépendance de toutes choses et sur la dimension intérieure de la matière apparemment inerte. La science contemporaine elle-même, dans ses avancées les plus audacieuses, redécouvre certaines de ses intuitions. La physique quantique montre que la matière au niveau subatomique ne peut être comprise comme ensemble d'objets séparés, mais plutôt comme une sorte de réseau, comme un réseau de relations, en fait. L'écologie révèle l'interconnexion profonde de tous les systèmes vivants. La cosmologie contemporaine suggère que l'univers entier pourrait être considéré comme une sorte d'immense organisme en évolution. Et ces découvertes scientifiques rejoignent par des chemins finalement différents l'intuition ancienne d'un cosmos vivant, relationnel, où tout est lié à tout. Dans ce ballet cosmique, le sujet de mon poème affirme sa permanence face à l'éphémère. La lune passe et se pavane, séduisante mais finalement fugitive. Les modes changent, les fascinations se succèdent et les amours superficiels naissent et meurent inlassablement. Mais celui qui a véritablement aimé, qui a inscrit son empreinte au plus profond, eh bien celui-là demeurera toujours. Cette permanence n'est pas l'immobilité morte d'une pierre. C'est la constance vivante de la fidélité, la présence continue de celui qui refuse d'abandonner l'aimer, mais même quand elle semble l'ignorer, même quand elle se laisse séduire par d'autres prétendants. Cette fidélité obstinée évoque à mon sens celle des mystiques qui ont continué de prier et de chercher et d'appeler le divin, même dans les périodes d'une grande sécheresse spirituelle, même quand les cieux semblaient muets et vides. Jean de la Croix parle de cette nuit obscure où Dieu semble absent et où toute consolation se retire soudain, mais où pourtant la foi persiste, nue, dépouillé de tout support sensible. Cette persévérance dans l'amour, malgré l'absence apparente de réciprocité, révèle la profondeur véritable de l'attachement. On n'aime pas vraiment tant qu'on aime par simple intérêt, pour ce qu'on reçoit. L'amour authentique commence quand on continue d'aimer même sans un retour visible, même dans l'aridité, même face à l'indifférence. Le vrai amour se trouve ici, croyez-moi. J'évoque le dépouillement dans les tout derniers vers. Et il constitue le mouvement ultime de cette quête d'union. Pour être accueilli pleinement par la terre, eh bien, il faut avant toute chose se vider de tout ce qui encombre, de toutes les accumulations inutiles et de tous les attachements superficiels. Et cette ascèse rappelle la voie apophatique des mystiques chrétiens, cette théologie négative qui procède par élimination progressive de tout ce qui n'est pas l'essentiel. On se dépouille des images fausses, des concepts inadéquats, des attachements parasites, jusqu'à atteindre finalement cette nudité essentielle où enfin la rencontre véritable devient possible. Dans les traditions orientales, et plus particulièrement dans celles que je connais le mieux, vous le savez maintenant, le bouddhisme zen, eh bien, on retrouve justement cette même insistance sur le dépouillement. Le moine errant ne possède que son bol et son bâton. Le sage taoïste vit simplement, détaché des honneurs et des richesses. Et cette pauvreté volontaire n'est pas une forme de masochisme ou un mépris de la vie, comme j'ai pu au départ, en lisant tout ça, en prenant connaissance de tout ça, le penser. Mais j'ai petit à petit compris qu'elle est finalement une libération, la création d'un espace vide où l'essentiel peut enfin advenir. Tant qu'on est encombré de possessions, de désirs multiples, de projets innombrables, et Dieu sait si aujourd'hui on en est chargé, eh bien on n'a pas de place pour accueillir vraiment l'autre, qu'il soit humain ou divin, terrestre ou cosmique, dans un espace qui est déjà très plein d'idées, d'ambitions, de son histoire, de son passé, de ce qu'on imagine pour son futur. Rien de tout cela ne peut advenir. L'union finale vers laquelle tend finalement l'ensemble du poème s'exprime dans un langage d'une audace érotique. Pénétrer le corps de la terre, percer son âme et se délecter de son limon humide. Eh bien, ces images, volontairement, ne laissent aucun doute sur la dimension charnelle de cette fusion désirée. Le limon, cette boue primordiale dont la genèse dit que fut formé le premier homme, devient ici matière de volupté, une substance de communion. L'humidité évoque la fécondité. La vie qui s'ouvre, la matrice où toute chose peut prendre forme. Cette descente dans la terre, cet enfouissement dans la matière humide et sombre, renverse complètement les images habituelles de l'élévation spirituelle. Traditionnellement, la spiritualité est ascension. On monte vers le ciel et on s'élève au-dessus de la matière, on transcende la pesanteur terrestre. Mais, croyez-moi, il existe une autre voie. Et cette voie, elle est moins célébrée, mais elle est tout aussi légitime. C'est celle de la descente. C'est celle de l'enracinement et de la plongée dans les profondeurs telluriques. Cette voie reconnaît que le sacré ne se trouve pas seulement dans les hauteurs célestes, mais aussi dans les profondeurs terrestres, dans les entrailles de la terre où se forment les cristaux et les métaux précieux. Les mythologies du monde entier connaissent ce mouvement descendant. Orphée descend aux enfers chercher Eurydice. Inanna descend dans le monde souterrain où règne sa sœur Ereshkigal. Perséphone passe la moitié de l'année dans les profondeurs avec Hadès. Ces descentes ne sont pas des simples punitions ou bien des accidents. Elles constituent purement des initiations nécessaires, des passages obligés vers une connaissance et une transformation plus profonde. On doit mourir symboliquement, s'enfoncer dans l'obscurité, affronter les puissances knoniennes avant de pouvoir renaître réellement, vraiment. L'aspiration ultime de mon poème, ne faire plus qu'un pour toujours avec la terre, exprime le désir mystique de l'union complète, de la fusion où toute séparation finalement s'abolit. Cette union finale possède une dimension eschatologique, elle vise l'éternité, elle vise le toujours, la permanence absolue. On pourrait y voir une forme d'anticipation poétique de ce qui attend finalement tout être humain. Retourner à la terre, être réintégré dans le grand cycle de la matière vivante. Nos corps, après la mort, se décomposent et nourrissent la terre qui les accueille. Nous redevenons effectivement un avec la terre. Nos atomes se dispersent et entrent dans la composition d'autres êtres. Mais cette union ne doit pas être reporté seulement à l'après-mort, le poème, justement, suggère qu'elle peut être anticipée, vécue dès maintenant par celui qui accepte de se donner totalement, de se dépouiller complètement et de s'enfoncer profondément dans la relation avec le terrestre. Cette union mystique avec la nature, certains la connaissent dans des moments de grâce, dans des moments d'extase panthéiste, où les frontières entre soi et le monde semblent se dissoudre. Wordsworth, grand poète romantique anglais, décrit ces instants où la conscience individuelle se fond dans la nature environnante, où on ne sait plus où finit le moi et où commence le non-moi. Cette expérience n'est pas réservée aux poètes ou aux mystiques professionnels. Beaucoup d'entre nous ont connu, ne serait-ce qu'un instant, cette sensation de fusion avec un paysage, ce moment où, contemplant la mer ou la montagne, la forêt, ou quand bien même aussi le désert, eh bien, on se sent comme dissoudre dans ce qu'on contemple, participant de son immensité, vibrant à l'unisson de sa vie silencieuse. Ces moments, croyez-moi, sont précieux parce qu'ils nous rappellent une vérité que nous oublions constamment. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs du monde naturel. Nous en sommes une partie intégrante, chair de sa chair, sang de son sang. Et l'écologie profonde, en tant que courant philosophique, est notamment développée par Arnès, eh bien, rejoint ces intuitions poétiques et mystiques. Elle affirme que la crise environnementale actuelle provient justement fondamentalement de notre sentiment de séparation avec la nature, de notre illusion d'être des entités isolées pouvant dominer et exploiter un monde extérieur. La solution ne peut venir seulement de mesures techniques ou politiques, aussi nécessaires soient-elles, hein, bien évidemment, mais elle exige une transformation profonde de notre conscience, une forme de retour à cette conscience écologique où nous nous reconnaissons comme participants d'un tout vivant plutôt que comme maître d'un monde objet. Vous n'êtes pas que des hommes ou des femmes, sachant remplir des tableaux Excel. Ce poème nous invite à redécouvrir, sincèrement, notre relation amoureuse fondamentale avec la Terre. Non pas une sorte d'amour abstrait, conceptuel, mais plutôt un amour charnel, passionné, qui engage notre corps autant que notre esprit. Il nous rappelle que la séparation entre matière et esprit, entre chair et âme, entre bas et haut, eh bien, n'est finalement qu'une construction mentale qui nous assèche et nous appauvrit. La véritable spiritualité est incarnée, elle est enracinée, elle passe par les sens autant que par l'intellect, par le désir autant que par la contemplation. Eh bien, puisse ce texte réveiller en vous cette conscience de votre appartenance intime à la Terre, de votre participation à sa vie immense. Et puisse-t-il vous encourager à établir avec elle une relation plus profonde, plus vraie, qui ne se contente pas de la voir comme un décor ou une ressource, mais qui la reconnaît comme partenaire vivante, comme un être aimé capable de réciprocité. Et puisse également ce poème vous inspirer à accepter ce dépouillement nécessaire qui crée l'espace pour une véritable union, cette nudité essentielle où enfin nous pouvons toucher ce qui dépasse notre petite vie individuelle et participer de l'éternité terrestre. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.